vogue pas.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 55e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes 4 pour animer cette émission. Il y a moi-même, François,
Reynald,
Dominique
et Christophe.
Et on a en spécial guest, comme d'habitude, le public.
Ouais, public.
Par contre, il a toujours pas pris son Exomil. Hein. Ça, c'est...
Deux Exomil et Oli, c'est ça?
Ah ouais,
c'est,
voilà. C'est le public.
Pourquoi il est à côté de moi, au fait?
C'est ça, on a tiré les cartes, t'as pas eu de chance.
Ouais,
et oh. Au sommaire de ce 55e épisode, on vous parlera de quelques petits jeux, et notamment des jeux rétro hein, qu'on a bien connus dans notre enfance. Et on profite de la présence de Christophe hein, pour revenir faire un peu des petites allusions dans les années 80 ou même avant ou dans les alentours. Le spécialiste du rétro, on pourrait dire ça en fait.
Ouais, mais alors pas forcément sur les jeux, mais aussi hein, finalement tout est bon.
On parlera de Star Wars puisqu'il y a eu récemment le 4 mai la fête de Star Wars.
May the Fourth be with you.
Yes. Et vu qu'on parle de Star Wars, on parlera aussi de Disney malheureusement.
Hélas.
Et on parlera aussi de films, de figurines, de quelques expositions qui auront eu lieu. Vraiment un gros sommaire. Il y aura bien sûr un album découverte ou peut-être des artistes.
Oh là. Dis-moi, bref, de la découverte.
Découverte d'artistes, ouais.
Ça promet.
Et le quiz musical qui a été préparé par Christophe.
Préparé, t'as mis un grand mot.
Voilà. Tu as tout à fait compris le concept de l'émission.
Alors, je vous propose de commencer avec Atari. Je sais, tout le monde, je pense, connaît à peu près Atari, même si c'est pas quoi ça fait forcément référence. On voit souvent ce logo, et notamment dans des jeux qui sont parus récemment. Il y a eu récemment une interview du... Alors, c'est pas le fondateur, c'est du directeur d'Atari.
Celui qui a racheté la société, puisqu'elle était apparemment en banqueroute. Donc, il a racheté en 2013, et donc il évoquait effectivement les projets de la société, qui aujourd'hui ne compte plus que 12 personnes. Quand on connaît l'histoire d'Atari, elle a évidemment connu des déboires. On se souvient tout du jeu E.T.
On en a parlé.
Voilà, non, il faut... Faut pas rouvrir des plumes.
Faut pas déterrer les cadavres enterrés dans le désert.
Voilà, c'est ça. Donc le jeu E.T. était tellement mauvais, hein, enfin, ce qu'on disait à l'époque. Plusieurs exemplaires avaient été faits. Hein. On fait une licence E.T., on va en sortir plein, ça va se vendre. Le problème, c'est que le bouche à oreille s'est fait assez rapidement, comme quoi le jeu était bien pourri. Du coup, ils se sont retrouvés avec des milliers de cartouches sur les bras. Et ils ont décidé de les enterrer dans le désert.
Magnifique.
Et on en a parlé dans l'émission.
C'était un petit peu la fin d'Atari, quoi.
Parce qu'en fait, ils ont été déterrés l'année dernière. Hein. Ça a fait un gros buzz.
Et il y a notamment un testeur du net, la VGN, qui avait fait un film carrément là-dessus, où il allait lui-même dans le désert les déterrer.
Oui, et puis alors Atari, bah, par la suite, après les consoles, ça a été la période ordinateur personnel avec l'Atari ST et ses déclinaisons. Et puis, il y a eu par la suite, mais alors là, ça n'a pas été un succès, le Falcon, qui a été, je sais pas, un peu le...
Dire que ça n'a pas été un succès, c'est un moindre mot.
Enfin bref, donc Atari, voilà...
Tout le monde pensait que c'était disparu. Moi-même, tu m'aurais dit, c'est quoi Atari maintenant
Il restait pas encore en studio de gaming.
Oui,
mais
il y avait peut-être des licences qui traînaient, mais repris par d'autres studio compliqué, bref, c'était de Atari. Quoi.
Ils avaient arrêté le hardware, mais continuaient les soft, je crois.
Alors, Atari ne va pas essayer de regagner...
De retrouver sa jeunesse.
Voilà, enfin, de se mettre...
De renaître de ses cendres.
Au même niveau que ses concurrents d'aujourd'hui, parce qu'il y aurait beaucoup de boulot, mais ils vont essayer plutôt de se mettre sur des marchés niches, ou en tout cas sur des secteurs un peu plus différenciants. Alors là, ils vont par exemple sortir un jeu LGBT, qui s'appelle Pride Fest, où apparemment une sorte de sim social où les gens peuvent créer leur propre gay pride.
Tu veux dire sim, notre sim à nous qui est mort il n'y a pas longtemps ou...
Non. Quoi, sim était gay?
What?
Oui, voilà.
Alors,
pourquoi
tout de suite attaquer la gay pride alors qu'on n'a pas encore des simulateurs de fanfare où tu peux créer tes défilés et tout Fiesta des Brésils, par exemple, le jeu.
Enfin voilà, donc ça c'est un concept assez original. Et lorsque nous révèle également le patron d'Atari, c'est qu'il voudrait également se mettre sur des nouveaux marchés comme peut-être les Apple Watch.
J'ai pas encore de jeu sur les montres, c'est pas bête. Ouais.
Donc à suivre en tout cas, on entendra peut-être à nouveau parler en force d'Atari.
Alors quand tu dis il va pas s'attaquer au gros marché, c'est tout ce qui est Dell, etc. Il va pas se remettre à faire des PC ou autre.
Non, là l'idée c'est plus d'être se focaliser sur les jeux.
Atari, vraiment là-bas c'était des jeux consoles, arcade. Donc là on sait qu'il y a Sony, on sait qu'il y a Microsoft avec la Xbox et on sait qu'il y a Nintendo pour combien de temps on sait pas encore. Donc refaire naître Atari ça serait...
C'est un reboot.
C'est un rêve pour certains fans, mais pas plus loin. Quoi.
Il dit ça aussi, je pense, parce que Commodore, lui, s'était lancé dans la fabrication de nouveaux PC, exactement. Nouvelle génération.
Donc, il avait le nom.
Ils se sont pris une grosse tollée.
Absolument.
Mais la bécane était hors de prix, et même des années plus tard, ce qui était dedans n'était pas exceptionnel. Quoi. C'était ça qui est dommage, t'achetais vraiment la marque Commodore.
C'est tellement attendu, par exemple, un retour d'Atari, un retour d'Amiga, etc., que si tu n'es pas au niveau des attentes du public et des fans, il ne faut même pas commencer.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'époque d'Atari, d'Amiga, c'était des ordinateurs qui étaient des concepts en eux-mêmes. Chaque produit avait sa propre créativité. Le PC, aujourd'hui, il y a encore Apple avec le Mac, mais les PC, c'est dire tout est ouvert et chaque fabricant peut faire son propre PC.
Tu n'as pas de problème de compatibilité, voilà.
Et tu mélanges les fabricants entre eux.
Mais même sur Mac et PC, tu peux installer Windows sur Mac ou voir macOS sur PC et compagnie, il n'y a pas de problème.
C'est ce qui a fait le succès des PC et c'est pour ça que Atari et Commodore n'ont pas pu poursuivre sur ce marché. Malgré tout, Apple y est arrivé. Donc,
pas Carbel, c'est un peu... C'est pas quelque chose à part aussi, non ? Tu peux pas l'ouvrir de toute façon.
Tout de suite, ne nous faisons pas des ennemis. J'avoue qu'un petit PC Atari, mais non, ça serait pour le fun, mais pour travailler vraiment au jour le jour, non.
Faut voir aussi que l'Atari a eu son heure de gloire également avec la musique. Tous ceux qui ont fait de la house music, la musique électronique à la fin des années 80, utilisaient des Atari.
Même maintenant, je suis sûr que tu vas dans certains studios musicaux, tu as encore des Atari et des disquettes d'Atari qui traînent.
Parce qu'il y avait une puce dédiée qui faisait la différence. Alors qu'à l'inverse, l'ordinateur Amiga est utilisé pour la vidéo, où il y avait pas mal de gens qui s'en servaient pour du montage vidéo.
Ils faisaient des super démos, je me souviens. T'en avais la masse.
Alors les démos, ça c'est quelque chose de très intéressant, mais c'était pas propre à l'Amiga. Il y en a eu énormément sur Atari.
Sur toutes les machines.
Et sur Amstrad, je me souviens, il y avait des concours de démos sur Amstrad également. Et par exemple, des gars avaient réussi à faire du full screen, c'est-à-dire afficher des informations en plein écran sur un Amstrad, qui par défaut ne rend pas la chose possible.
À l'époque, on avait le temps de...
On a des bords.
Entre des générations de machines, tu avais le temps d'exploiter complètement une machine, de la retourner dans tous les sens, etc., d'exploiter le moindre bout de code avant que la machine suivante sorte. Maintenant, tu changes de téléphone portable tous les 3 mois, etc., avant même que l'ancien t'aies pu l'exploiter.
C'est un peu comme le cinéma aujourd'hui et les films des années 80. Un film restait à l'antenne longtemps, il a marqué son époque. Aujourd'hui, à part quelques sagas, et encore justement parce que c'est des films, on en fait plusieurs. Un film reste beaucoup moins longtemps à l'antenne.
En même temps, tu parles d'Amstrad par rapport au PC de maintenant, mais c'est parce qu'avant, t'as acheté l'ordinateur Amstrad, t'avais le bouquin qui t'apprenait à coder en basique, en plus du manuel qui te disait comment allumer l'Amstrad. Maintenant, t'as un PC, on te dit t'appuies sur menu démarrer pour lancer.
On te dit même pas comment l'allumer, voilà, tu te démerdes.
C'est ça quoi. T'as une autre mentalité par rapport à maintenant.
Allez, je vous propose d'enchaîner avec un autre petit sujet. Celui-là est assez...
absolument rien à voir.
qui a rien à voir. Hein. Là, on sort les petites news de jeux vidéo qui traînent. Ça s'est passé sur Steam et tous les joueurs qui habitent en Indonésie ont eu la possibilité d'acheter le catalogue Steam, mais pour une bouchée de pain, puisque un dollar américain correspond à peu près à 13 000 roupies. Mais sauf que sur Steam, ce qui s'est passé, c'est que le dollar américain s'est retrouvé égal à 1 roupie.
Ah, en gros, tu pouvais acheter 13 000 jeux pour le prix d'un euro, si je m'en simplifie.
C'est ça, ou 13 000 fois moins cher.
C'est pas mal. T'imagines la même chose avec une plateforme musicale ou de cinéma. C'est intéressant.
Ah, mais c'est un record battu.
Il y a eu, dans les supermarchés, c'est déjà arrivé ce genre de... Alors, pas au même niveau, hein, mais où les gens achetaient en quantité des choses parce que le prix était erroné. Bah, sauf que quand ils s'en rendent compte, évidemment.
Ça arrive de temps en temps, tu le vois, des erreurs sur Amazon ou n'importe quel grand marchand en ligne. Voilà. Ah, tiens, le frigo là, on s'est trompé, au lieu de le mettre à 100, à 1000 euros, un petit malin qui met 10 euros sans le faire exprès. Et il y a plein de gens qui passent la commande, mais bon, le temps qu'ils s'en aperçoivent, ils ont le droit d'annuler la commande. Etc.
Les glaçons ont fondu.
Voilà.
Le problème, c'est que sur Steam, une fois que tu valides ton achat, qu'il est validé,
c'est instantané sur Internet. C'est du virtuel.
Ton jeu est téléchargé, quoi. Voilà.
Exactement.
Alors, est-ce qu'ils ont fait désinstaller tous les jeux?
Bon, ils se sont dit... Moi, je ne sais pas combien de gens ils ont en Indonésie, mais est-ce qu'ils sont vraiment perdants dans l'affaire?
Alors, je crois... Alors, selon ce qu'ils ont déjà fait, c'est déjà arrivé en Russie, par exemple, je pense qu'ils risquent de...
Attends. Tu veux dire qu'en Russie, il y a des gens qui achètent des jeux?
Je crois, ouais.
Non.
Peut-être?
Non, non, c'est pas possible. Rappelle-toi de l'interview qu'on avait fait avec l'un des cofondateurs de BioWink.
Il disait que le maximum de piratage se faisait en Russie.
En Russie et en Chine. C'est-à-dire que tu as énormément de gens qui jouent aux jeux en Russie, etc. Mais le nombre d'achats, c'est le plus petit. Il n'y a personne qui achète de jeux en Russie.
En Chine, c'est normal parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter de manière officielle. Donc, ils sont obligés de le pirater. Qu'en Russie, je ne sais pas.
Le type qui, en Russie, tu te promènes dans la rue, dit « j'ai acheté un jeu ». Les gens lui jettent des cailloux.
Mais c'est ça le bug.
Voilà, c'est ça le bug. Les gens lui jettent des cailloux.
Ou alors c'est son Ronancho, quoi. Ouais, je rigole.
J'ai vu un film, je l'ai payé. Les gens se moquent de lui, quoi.
On va repartir dans le jeu rétro, là. On fait des sauts en avant, en arrière.
On se croirait dans... comment s'appelle ce film magnifique qui va sortir bientôt
Kung Fury.
Kung Fury.
Ah oui.
On hack le temps pour remonter dans le temps.
Il y a du rétro gaming dans le jeu. Enfin, il y a tout est dans le jeu.
On en reparlera quand ce film sortira.
Donc ils vont mélanger tous les styles de kung-fu, un truc dans le genre.
Ils vont mélanger tous les stéréotypes de films de genre et ça va donner quelque chose de très intéressant.
Ils retournent dans le temps en hackant. Ils hackent le temps avec un vieux Atari ou je ne sais pas ce que c'est.
Oh, non, c'est même
et d'ailleurs, ça sera expliqué dans Les Experts Cyber.
Sans doute.
Sûrement prochainement. Et il y a un jeu qu'on attend depuis longtemps. On attend qu'il fasse son retour sur nos mobiles. Le seul jeu mobile qu'on avait quasiment à l'époque.
C'est vrai. Sur les tout premiers téléphones qui n'étaient pas des smartphones. Attention.
Donc aujourd'hui, tout le monde joue à Candy Crush. Mais à l'époque, on jouait à Snake.
C'était le jeu disponible sur les premiers Nokia, les tout premiers. Fallait pas grand-chose. Fallait juste les quatre touches de direction. Puis voilà, c'est du noir et blanc. Donc pas de problème. Il faut juste afficher des carrés qui bougent.
Donc ça, c'était avant les années 2000, si je me trompe.
Bah oui, largement.
90, 2000, un truc dans le genre.
Les premiers téléphones portables, oui.
Ouais, il y avait un écran. Enfin,
voilà, oui, oh, oui, c'est vrai. Il y avait, à un moment, il y avait des téléphones qui n'avaient pas d'écran.
Moi, je me souviens, dans les séries américaines des années 70, ils avaient déjà les téléphones de voiture, hein, certains. Bon, les gens qui avaient les moyens, mais... Ça veut dire qu'il y a une évolution dans la mobilité.
Ils étaient portables, mais il fallait une voiture quand même pour le porter.
Tout à fait.
En gros.
Donc, le créateur... Taneli Amendo va refaire une refonte de son jeu de manière officielle, puisqu'on a déjà des petits snakes qui existent, mais,
des clones,
mais
oui.
Ce sont des copies, même tout illégales.
Le moindre petit programmeur de base de 15 ans, son premier examen en informatique, c'est programmer un clone de Snake ou de Tetris, un petit jeu
sur
ça.
Flash, c'est ça, ouais. Quand t'apprends Flash, tu refais un Snake.
J'ai connu quelqu'un qui avait fait un jeu, alors peut-être un Mario, sur une calculatrice. Calculatrice programmable, on pouvait aller faire des choses assez incroyables.
Moi j'avais vu, on avait un char. Ça, c'était bien.
Les petits jeux de combat de tank, et voilà.
Ça, c'était bon. Donc, il va ressortir une nouvelle version qui s'appellera Snake Rewind. Et on retrouvera les fonctions basiques du célèbre jeu Snake. Hein.
Mais au bas, gauche, droite, et puis c'est tout.
Voilà, on ramasse des petits pions, et plus on ramasse de pions, plus on grandit, donc plus il est difficile
plus
de
contourner son... On prend la place à l'écran, et voilà, on se gêne.
Il faut éviter que le serpent se morde la queue.
Avec des designs adaptés à tous les goûts.
C'est une allégorie de la vie. Tout ça, c'est magnifique.
Donc bien sûr, cette nouvelle version vous proposera des niveaux supplémentaires, des petits ajouts au niveau du design, comme tu disais, ou même des pouvoirs spéciaux.
Il faudra bien sûr partager ton score avec tes amis sur Facebook, etc.
Mais attends, mieux que ça, il y aura un mode multijoueur.
Tu pourras mordre la queue des autres joueurs.
Pardon.
Merde, je vais devoir la bouger pour l'émission 69, cette news.
Ah oui.
Allez, on va passer au petit dossier, enfin même à un gros dossier, puisqu'on a accumulé quelques news concernant la fameuse licence Star Wars. Donc le 4 mai, les fans ont décidé d'élire le 4 mai comme le jour de Star Wars, ou en tout cas le jour où on célèbre la fameuse licence, tout simplement parce que en anglais, le 4 mai, ça se dit...
May the Fourth.
Et que la force soit avec toi, en anglais c'est exactement la même chose. May the Force be with you. Donc à cette occasion, nous on a récupéré un peu aussi toutes les news qui traînent au niveau de Star Wars. Alors celle qu'on en a déjà parlé, c'est bien sûr le film, puisque Disney a racheté la licence de Star Wars et a décidé d'en sortir une nouvelle trilogie. Alors la dernière fois que ça s'est passé, ça s'est pas très bien fini,
pas
je pense.
Pas trop non plus. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas eu de deuxième trilogie.
Mais je pense qu'il y a quand même un engouement, même si c'est ouais, fait par même. Disney, parce que les gens sont toujours attachés à Star Wars.
Mais et... là, ça tient au fait que le réalisateur de la nouvelle trilogie est vraiment fan et a envie vraiment de respecter, de retrouver l'esprit de la première trilogie que lui-même avait vue quand il était gamin. Quoi. Et c'est là qu'il faut rajouter le nom du réalisateur.
J.J. Abrams.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Ah. Oh mon Dieu, ah. La force.
C'est voilà, c'est la force.
Alors on a d'ailleurs des petites news concernant ce film qui va sortir. On sait déjà qu'il y aura les acteurs de la première série, hein, le Harrison Ford.
Oui, puisqu'on les a vus dans la dernière bande-annonce, donc c'est pas du scoop tout ça.
C'est pas du scoop, mais on a enfin la tête du nouveau méchant. Le dernier gros méchant, c'était celui avec son double sabre.
Ouais, Darth Maul, puis le grand robot, je sais plus comment il s'appelait. Enfin bon, c'était pas Jar Jar Binks le grand méchant. Parce que tout le monde, c'est bizarre, tout le monde avait envie de le tuer.
C'est clair. Donc là, le nouveau méchant aura encore un sabre rouge hein, pour
rester dans... Ah oui, le rouge c'est le mal, c'est normal. Les bleus c'est les gentils, les rouges c'est les méchants, c'est bien connu.
Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème de distinction, comme ça avec des robes de mariée.
Oh, les allusions.
Il sera donc interprété par l'acteur Adam Driver, qui est connu...
C'est pas lui qui avait joué dans la série Girls.
C'est bien lui.
Ah oui.
Quelle culture. Donc tout ça, la saga va sortir dans les alentours du 18 décembre.
Comment est-ce qu'on va faire jusque-là?
Je sais pas, on regardera Jurassic Park.
Ou pas.
En tout cas, ils vont faire diluer comme ça les informations au fur et à mesure, on peut imaginer.
Ils sont très très forts à ce niveau-là.
Il faut tenir d'ici décembre, donc on a déjà eu des captures d'images volées de quelques vaisseaux.
Soi-disant volées.
Non, ça c'était l'Elysée. Ah non, pardon, je confonds. Ah,
attention.
Donc voilà, à mon avis, on aura plein de petites bandes annonces comme ça qui vont fleurir, des petits trailers, sur le site du tournage avec certains acteurs qu'on ne sait même pas encore ce qu'ils vont jouer.
Est-ce qu'ils seront encore vivants à ce moment-là?
Puis ils vont tourner 50 heures d'archives pour diluer dans les 50 prochaines années.
Et la version longue qui dure 5 fois plus longtemps. Voilà. Concernant les news de Star Wars, il y a un magazine qui est sorti le 21 avril et c'est consacré uniquement ou principalement pour les fans de Star Wars.
Oui, alors ce qui se passait, c'est qu'avant en France, on avait le Lucasfilm Magazine qui était une revue dédiée à tout l'univers Lucas, c'est-à-dire Star Wars et Indiana Jones notamment. Et y a eu cette période de creux où il n'y avait plus d'actualité Star Wars, du coup le magazine s'était arrêté. Et les gens qui sont derrière, là, reprennent cette fois en prenant l'adaptation d'une revue américaine qui s'appelle Star Wars Insider. Mais donc voilà, pour les gens qui s'intéressent à l'univers Star Wars, ça va permettre de retrouver toute l'actualité en attendant la sortie du film.
C'est des interviews d'acteurs, des...
Voilà, des actualités sur le film, les previews.
Des mots croisés, je parle qu'il y a des mots croisés avec des infos sur Star Wars.
L'horoscope pour les extraterrestres.
L'horoscope.
Jar Jar Binks, aujourd'hui vous allez essuyer 4 tentatives de meurtre.
Et alors, aussi une information qu'on a pas mis là, mais qui est intéressante, c'est qu'en fin d'année, est prévu un nouveau livre écrit par des Français sur l'univers Star Wars qui devrait être assez vraiment essayer d'apporter de nouvelles choses avec notamment des images d'archives qu'on n'aurait pas vues souvent ou voire jamais vues.
Enfin, c'est pas une nouvelle histoire de Star Wars.
C'est un ouvrage consacré à l'univers Star Wars.
Ça prouve que vraiment Star Wars, il y a eu vraiment un creux, même avec la deuxième trilogie. Il y a eu beaucoup de nouveaux publics, mais on sent que tous les fans de la première trilogie qui a marqué tout le monde... attendez vraiment une renaissance, donc des nouveaux magazines, sûrement des nouveaux jeux vidéo et compagnie.
Fin d'année, je pense que ça va être remettre une couche de Space Opera. Je sais qu'il y a une vente aux enchères aussi qui s'annonce, donc voilà, il y a pas mal de choses à venir.
Mais moi je suis toujours fasciné par Star Wars. Alors moi j'ai pas connu ça, mais il y a beaucoup de gens qui avaient l'habitude d'aller au ciné, de voir des films, et pour eux Star Wars c'était une sorte de révélation,
c'était un choc.
Vraiment un des premiers films de science-fiction qui cartonnait et qui en envoyait plein la vue.
Bah en fait, c'est que Lucas a digéré tout ce qu'il a vu dans son enfance au travers de la littérature, d'autres univers. On avait Buck Rogers dans les années 30-40, etc. Flash Gordon.
C'était des bouquins, des comics.
De souvenirs, il a porté ce projet tout seul. Il a vraiment monté les histoires.
Voilà, c'est vrai que ça s'est pas fait comme ça rapidement. Enfin, ça a été une histoire de nombreuses années de travail, effectivement. effectivement, il y a bah, maintenant il y a beaucoup de bouquins qui, de documents qui expliquent tout ça, mais effectivement c'est vraiment lui qui a innové pour le coup en reprenant des choses comme je le disais, il a transposé dans l'espace un univers de d'aventure.
À la base, c'est juste un western dans l'espace.
Voilà.
Quoi, hein,
mais... C'est le principe du space opéra d'ailleurs. C'est pour ça que voilà. Ça illustre tout à fait ce genre littéraire.
Il avait quand même de bonnes bases, puisque là, quand ils sortent 9 films quand même. Hein, c'est
oui,
il y a
et
peu
puis,
de licences.
C'est un univers complet. Et il y en a d'autres, parce qu'on parle de la trilogie qui se base toujours sur l'histoire de base avec les persos qu'on connaît. Mais il prévoit aussi de sortir des. Comment on appelle ça? Des side stories, des films qui sont toujours dans l'univers Star Wars, mais qui racontent l'histoire de personnages secondaires, etc. Donc,
Ah oui, alors là, on voit la couverture du magazine.
Alors, il y en a deux. Hein.
Il y a deux, voilà. Ça, c'est typiquement ce que font les Américains, c'est que, en tout cas pour Star Wars, ils font deux versions du même
donc,
magazine.
Je suppose que là, on voit Mark Hamill jeune avec son pistolet. Je pense que la deuxième couve, c'est il est vieux.
Non, je crois que c'est Darth Vader.
Et il tient plus sur la couve.
En tout cas, l'idée, c'est de vendre deux fois la même revue.
Oui, parce qu'il y a toujours des gens comme dans les comics. Voilà, tu sors un comics avec quatre couvertures différentes.
Oui, je l'ai acheté.
Il y a des gens qui achètent les quatre.
C'est moi.
Non, t'en as acheté qu'une.
Non, moi, j'en ai acheté quatre.
Bah, en parlant de comics, c'est vrai qu'il y a des comics Star Wars.
Des romans,
oui,
des comics, des jeux.
Dominique parlait des side stories, mais dans les années 80, on avait la revue Titan, qui était éditée par Sage Édition ou Aridit, je ne sais plus. Enfin, bref, les comics à la France, qu'on voyait en France, c'était... notamment cette revue-là, Titan, et il y avait dans les numéros les histoires de Star Wars, enfin des histoires qui étaient traduites de l'américain, mais c'était une manière pour les gens qui lisaient ces histoires à l'époque de poursuivre l'aventure.
Sans parler des jeux vidéo, des jeux de plateau,
alors,
des jeux de rôle.
Les jeux vidéo à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, mais il y avait effectivement des premières tentatives de jeux sur cet univers.
On sent bien que Disney va exploiter la licence, puisqu'il y a des figurines qu'on peut utiliser d'ailleurs avec ces consoles qui existent déjà pour Marvel et Disney.
Voilà, c'est le Disney Infinity, c'est le fameux jeu vidéo où tu achètes une figurine du personnage de l'univers de Disney pour l'instant, puis Marvel et bientôt Star Wars.
Et oui, puisque...
Tu prends ta petite figurine que tu achètes, déjà les mignonnes et tout, tu la poses sur ta console, tu les rampes, hop, et ton personnage apparaît dans le jeu vidéo.
Donc la Wii exploite ça aussi avec les personnages de Mario, avec des versions inédites, etc.
C'est un petit peu interactif.
Voilà. Et là, pour Star Wars, ils annoncent trois packs différents, pour le moment en tout cas.
Alors le pack Twilight of the Republic, avec Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, voilà. Rise Against the Empire, vous aurez Luke et la princesse Leia, et dans le dernier, le réveil de la Force.
Oh, on ne sait pas qui y aura, c'est la surprise.
Ça sera bientôt annoncé. Alors, je pense qu'on sera là à pas guetter la news.
C'est juste histoire de voir. On reconnaît Disney, sa faculté à vendre à faire payer aux parents les jouets. à forcer les gamins à faire dépenser l'argent aux parents. Voilà. C'est sympa. Il y aura des combats entre les personnages. Oui, il y aura genre Wolverine contre Luke Skywalker. Ou, tu pourras te battre. C'est magnifique dans les jeux. C'est pas mal.
Hulk qui dira à Luke, je ne suis pas ton père.
Oh là là.
On parle de Disney. Hein,
on parle de LucasArts.
Enfin, on parle d'argent. Donc, où est-ce qu'on pourrait encore tirer de l'argent dans
parce
une licence
que Disney a racheté Lucasfilm. Ça veut dire qu'ils ont racheté Star Wars. Mais comme le disait Christophe tout à l'heure, dans Lucasfilm, il y a aussi Indiana Jones. Où on est Indiana Jones.
Eh ben oui, hein, dernier.
Comme coïncidence, il y a un acteur en commun entre les deux. C'est qui déjà?
Ah merde.
Pourtant, ils roulent pas en Ford.
Non, Volvo, quelque chose. Non.
C'est ça.
Eh oui, puisque Disney envisage de faire un Indiana Jones 5, or vu le succès du 4.
Ils n'ont pas relancé une quadrilogie, ils sont gentils.
C'est vrai.
Il y a eu un 4.
Voilà, tout le débat est ici. Moi, ouais, je l'ai regardé, le 4.
Tu l'as regardé ou tu l'as vu? Voilà, le public a résumé. Merci le public. On passe.
Voilà, c'était...
Mais on attend le prochain.
T'espères que Harrison Ford arrivera à bouger encore plus.
Non, voilà, c'est ce qu'on apprend justement dans Vanity Fair, dans le magazine, à l'occasion d'un dossier spécial, c'est que il commence à vieillir un peu, il a 70 ans plus, donc ils sont en train de chercher un remplaçant pour Indiana Jones.
Voilà, ils peuvent rappeler Tom Selleck, parce que lui était prévu à la base pour jouer Indiana Jones.
Oh là là, on voit la culture.
Et mais pas de chance. Sedek, là, il est encore en bonne forme, je trouve. Hein. Il joue c'est dans Blue Bloods.
Ouais, ça va, il est à peu près en forme.
Bon, il bouge jamais, il est toujours sur sa chaise.
C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Tom Selleck avait été pressenti pour jouer le rôle de Legend. Et puis, il y a quelqu'un qui lui avait proposé de faire une petite série télé où il devait jouer un détective privé sur une île avec une Ferrari.
Avec un flingue.
Il se dit, bon, je vais prendre la Ferrari plutôt que le Faucon Millennium.
Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'avant de faire Indiana Jones, le projet, c'était de faire une adaptation de Tintin.
Exactement.
Et Hergé n'était pas d'accord, c'est comme ça qu'est né Indiana Jones. Mais on aurait eu un Tintin et Indiana Jones, on n'en parlerait pas aujourd'hui.
Ah. Spielberg était fan absolu de Tintin, toujours d'ailleurs. Il est encore vivant.
Mais il l'a fait son Tintin, il a fait le secret de la licorne.
Ouais, mais il l'a fait beaucoup plus tard.
Hergé était mort et qu'il pouvait racheter la licence plus facilement.
Les aventures d'Indiana Jones, c'est à force de lire les albums de Tintin qu'il va se promener à travers le monde et qu'il arrive des trucs de fou.
C'est
l'inspiration d'Indiana Jones, quoi. Voilà.
Moi, alors après, ça c'est personnel, je pense que Spielberg avait quand même fait un Tintin qui était correct. Enfin, moi, j'arrive à le regarder assez facilement.
Moi, ça me donne envie, j'ai pas vu, mais ça me donne envie de relire les albums BD, quoi.
Oui, en plus. Mais franchement, c'est à voir, hein, si tu l'as jamais vu.
Ouais, en plus, ça a été fait de manière particulière, puisque ce ne sont pas des acteurs, mais la technique. Enfin, si, il me semble que ce sont des acteurs qui ont été filmés.
C'est des acteurs qui bougent et on refait les images en images de synthèse par-dessus, en gros.
Mais on pourrait tout à fait, enfin d'ailleurs ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, mais qu'il y ait des suites.
Absolument.
Donc peut-être qu'il y aura une news un jour.
Moi j'aimerais bien, ouais.
Mais quel rôle va jouer Omar Sy ?
En fait la question c'est...
C'est ça la question, quel rôle va jouer Omar Sy ?
La question c'est est-ce que ça a marché comme il l'espérait ?
Dans
peut-être
le monde,
pas, et...
parce qu'en France, en Belgique, on sait que ça a marché, que ça a eu du succès au moins.
Mais il s'en fout Spielberg, vous m'avez dit qu'il était fan de Tintin.
Ouais,
il a fait ça, il n'a pas
fait
ça pour l'argent.
En fait. Exactement, peut-être.
Il ne travaille pas chez Disney.
Quoi, tu veux dire que Disney ne travaille pas pour l'argent ? Bon, j'ai rien compris au débat.
Allez, un dernier film.
Attendu.
Et oui.
Encore un reboot, encore une nouvelle trilogie. Enfin, trilogie, non. Mais...
Enfin, non, puisqu'ils font toujours. Ce n'est pas des suites qu'ils font dans leurs films. Les Monty Python vont réaliser un nouveau film. Et ça s'appellera Absolutely Anything.
Absolument n'importe quoi.
Voilà. Alors c'est vrai que, en tout cas en Angleterre, c'est l'humour qui marche le mieux, je pense. Hein. Le plus connu, ça sera les Monty Python.
C'est la référence, les Monty Python.
Le nonsense.
L'absurde.
Ouais, exactement.
Je sais pas si en France c'est très connu, parce que je pense que ça, au niveau doublage, ça devait pas être le top.
Alors la série, alors il y a deux choses. Il y a les films. C'est surtout les films que les gens connaissent en France. Et puis il y a la série télé Le Flying Circus qui est là. Enfin, aux États. Enfin, en Angleterre, c'est aussi connu, je pense, que les films, mais beaucoup moins en France. Et il y a eu quand même 48 épisodes. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment les Monty Python et qui ne le connaissent pas, c'est quelque chose
c'est
à découvrir.
Top.
Mais ça a été sous-titré, par contre. C'est sûr que les Monty Python doublés. Il y a eu un film qui s'appelle Pataquès qui est un montage d'épisodes. Mais qui est doublé, du coup, on n'en parle pas.
Non, on n'en parle pas.
Et c'est vrai que les Français sont un peu allergiques à l'anglais sous-titré, du coup, ça n'a jamais vraiment percé. À chaque fois, j'entends les Monty Python.
C'est le top.
Puis tu peux regarder, hein, tu tapes sur Internet, meilleur film comique, tu auras toujours un Monty Python dans le top premier. Alors là, ils vont continuer dans la même lignée, ils vont faire quelque chose d'un peu extravagant.
Non.
Alors, ça sera un homme qui aura un peu des pouvoirs surhumains. Certains disent que ça ressemblera à une sorte de Bruce Tout-Puissant à la sauce Monty Python. Alors, je pense que ça permettra d'aller loin dans l'absurde. Ça risque d'être assez sympathique. En tout cas...
En plus, c'est avec Simon Pegg, celui qui joue...
Dans Shaun of the Dead.
Par exemple, un acteur qui est récurrent dans les comédies britanniques récentes.
Par contre, Robin Williams, feu Robin Williams...
Dans un rôle magnifique.
...sera présent puisqu'il il a déjà prêté sa voix pour un chien.
Ça veut dire qu'il y a un chien qui parle déjà.
Ah, ça me rappelle un bon film, ça s'appelait Les Clés de bagnole.
Je ne vois pas de quoi
tu parles. Il l'a placé.
Je ne vois pas
c'est
de quoi
un
tu
chien en pâte à modeler qui parle.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Donc voilà, espérer une sortie au niveau du mois de juin. Alors j'en profite vu qu'on parle de chien qui parle.
Ah, chien qui parle.
J'ai mieux qu'un chien qui parle.
On
j'ai
a le public.
Un chien qui chante.
Waouh.
Alors, Modestie, hein, c'est le nom de la chanteuse.
Waouh.
Un animal qu'elle affectionne tout particulièrement et elle a décidé de faire un album avec. Donc son chien s'appelle Pipounet. Donc Modestie et Pipounet vont vous chanter.
On devrait pas rigoler des noms qu'on donne à ces chiens, c'est pas bien.
C'est vrai.
Il est pour rien.
On a une pensée pour Paris Hilton qui a perdu son chihuahua, je crois, qui avait à l'âge de 15 ans vient de disparaître.
Elle a égaré.
Je pense qu'on a fait une seconde de silence pour Paris
il
Hilton.
Il s'appelait comment ?
Genre, c'est Paris Hilton. Là, on peut se moquer.
Alors, la chanson s'appelle Le chien extraordinaire.
Ah, tout est dit.
Donc, le chien chante vraiment.
C'est le chien qui joue de la musique, là.
C'est peut-être lui au piano aussi. Modestie et pipounet.
C'est bizarre parce que sur la photo, il y a plus d'intelligence dans le regard du chien.
C'est vrai.
Quand est-ce qu'il chante le chien ?
Attends, tu vas pas être déçu. Tu vas pas être déçu. Pipounet.
Il s'est fait voler là.
On a perdu.
Mais il faut, il souffre, il faut faire quelque chose.
On sait pas si on est en train de l'abattre ou s'il chante.
Ouais, on lui tire un poil ou un truc comme ça, c'est pas possible.
Est-ce que c'est écrit au dos de la pochette si cet animal a subi
aucun
des...
animal n'a souffert non. pendant le tournage non. de. Oh mon dieu.
Pourtant la pochette ça fait limite viens les enfants, on va être gentil avec vous, mais la, ah, la chanson est ignoble quoi.
On dirait vraiment qu'on le torture, c'est affreux.
C'est terrible. Ah bah oui, il y a de la parole derrière.
Ah, il va chanter. Allez, chante.
Il y a des cœurs.
Ouais, c'est ça le
pire. Il y a des cœurs. Ça donne des envies de nouveaux génériques, ça.
C'est pas un peu.
Est-ce qu'on ferait pas une émission spéciale chien un jour hein, sur Radio Belafonte ?
Mais on dirait un chat bientôt, quoi.
Bon, c'est bon, là.
En fait, ce morceau marque un changement dans la musique,
dans mon
musique électronique. C'est l'arrivée de... Voilà,
c'est le chien qui joue de la musique, là. Waouh, eh ben, c'était du lourd.
Bon, il y aura bientôt un quiz sur les animaux, alors.
Voilà, non, une émission complète. C'est à la mode en plus les émissions sur les animaux, ça marche bien à la télé. On a un nouveau concept.
Bravo
là.
Super. Wow.
Modestie et Pipounet, si vous voulez retrouver ça sur le net de temps en temps, hein, pour s'écouter de la bonne musique, rajoutez dans votre playlist YouTube. Allez, on va parler de figurines. Et c'est, je pense que c'est la première fois qu'on va parler de figurines dans l'émission.
Et quelle figurine ?
Ah oui.
Eh oui. Ouais, ouais. Puisque alors que tout le monde collectionne des figurines de Tomb Raider ou de Assassin's Creed, pourquoi ne pas investir dans les figurines, les crados ?
Ouais.
Alors, est-ce que vous vous souvenez des crados, ce ouais. célèbre... Je pense que c'était un jeu de cartes à collectionner. Alors,
il y a un album cartes à coller aussi.
Ah, ouais, il y a eu plusieurs choses, puisque ça vient des États-Unis évidemment. Il y a eu effectivement les cartes. Est-ce que c'était les cartes en premier ? Je pense. Mais il y a eu également, il me semble, un dessin animé.
Absolument.
Qu'on n'a pas eu. Qui est passé sur Canal Plus de manière confidentielle.
Encrypté.
Et il y a eu également, alors là, accrochez-vous, il existe un long métrage live, c'est-à-dire avec des acteurs. Enfin, des acteurs c'est beaucoup dire. Des gens qui ont un costume pour ressembler à des crados, hein, il faut imaginer. Hein, ils ont pris des personnes de petite taille, je pense. Ce film est inédit chez nous. Et c'est très bien comme ça. Mais je me demande si des fans ne l'ont pas sous-titré. En tout cas, si vous cherchez sur YouTube, vous pourrez retrouver, voir des extraits de ce film. Et c'est assez.
Donc, ça a été diffusé dans le monde entier, les crados. Hein. C'était pas que chez nous.
Ouais,
donc, le but, c'était de faire des dessins un peu provoquants et un peu dégueulasses.
C'était des petits mais
surtout dégueulasses.
Mais qui plaisaient beaucoup aux enfants que nous étions.
Oh, c'était pipi caca, quoi.
C'est dommage parce que j'ai encore les cartes.
Oh, attention, tu peux en tirer. Ça peut valoir très cher, on ne sait pas.
Alors, ce qui était bien, c'était marrant, en fait, c'était un album. En fait,
comme un album Panini.
En fait, c'est des cartes et en même temps, des deux autocollants. Donc, en fait, on pouvait coller les images et derrière, en fait, il y avait des cartes qui étaient marquées, admettons, je suis...
Le nom du personnage, voilà.
Ouais, voilà ouais,
qu'est-ce qu'il y avait comme marqué. Personnage
Oh, il y avait René Pudépied, il me semble.
Oh. Et ah bah, on a des petits exemples de noms.
Yvan Mort-Vivant.
Yvan Mort-Vivant, il avait des vers de terre qui lui servaient. Ouais, c'était une espèce de bébé zombie, quoi, en gros, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ah, puis c'est les images, quoi. C'est-à-dire que le non-sol.
Ça avait choqué à l'époque, les parents.
C'était dégueu, quoi.
Ah, mais moi j'adorais, en fait. Il y en avait un qui foutait son nom.
Et effectivement, la série passait sur Canal Plus encryptée.
Le public aimait bien parce qu'il s'incarnait dans les personnages.
Oui, voilà, c'est ça.
Bah moi c'est quand je suis arrivé c'était la génération carte à collectionner Dragon Ball Z.
Ball est arrivé, c'est fini, ça signait la fin
des cartes à collectionner, ouais.
Mais les crados, ouais, ça a dû durer 2-3 ans peut-être
Et donc là ça revient parce qu'on a le retour de Snake tout à l'heure sur mobile, on a le retour des crados sous forme de figurines. C'est des petites figurines, enfin petites façon de parler.
Alors,
quoi,
10,
ça fait,
10 pouces, ça fait
25 cm,
voilà,
c'est ça. Donc c'est la bonne grosse figurine quand même. C'est vraiment pour les... Ouais, j'imagine que quel âge ils ont maintenant les gens qui avaient les cartes à l'époque.
C'est quand même marqué à partir de l'âge à partir de 17 ans.
Voilà, bah, de toute façon, ceux qui étaient fans des grados à l'époque, maintenant ils ont largement plus de 17 ans. Ils ont peut-être des enfants de 17 ans, on veut voir. Ils ont des moyens de payer des figurines.
Voilà. On imagine qu'elles ne sont pas données.
Oh non.
Ils essaieront de taper dans un prix assez faible, puisqu'ils vont en vendre beaucoup.
Il va y avoir 12 personnages, 12 premiers personnages, et on pourra acheter les 12 personnages dans une boîte. Waouh, complète.
Faut voir le prix. Faut voir.
On verra ça. C'est pas un projet Kickstarter pour une fois, non.
Non, bah, je pense qu'ils sont convaincus du potentiel.
Alors, quelle figurine vous sortiriez sur quelque chose qui a été oublié comme ça, hein, soit un dessin animé, soit des cartes à collectionner.
Un truc avec un chien qui chante, je ne sais pas pourquoi.
Picouner la figurine.
Justement, ouais, moi je me suis dit un truc tout à l'heure, j'ai vérifié sur internet pour dire à quel point j'étais motivé. Les Schtroumpfs, vous connaissez tous les figurines des Schtroumpfs.
On en trouve dans toutes les braderies, voilà. Et compagnie.
Eh bien, évidemment, on a eu une figurine de Gargamel, enfin, voire plusieurs versions d'ailleurs, mais... Eh ben, toutes les figurines de Gargamel dont j'ai connaissance sont toujours à la taille des Schtroumpfs.
Ah, c'est pas normal.
Et ce serait, voilà, à quand une figurine de Gargamel qui est la bonne taille par rapport
aux
Schtroumpfs ?
Est-ce qu'il n'y a pas un épisode où il s'est retrouvé à la taille des Schtroumpfs, justement ?
Qu'en fait, en Allemagne, ils ont sorti une figurine de Gargamel un peu plus grande que les Schtroumpfs.
Enfin voilà, en tout cas, c'est un vrai sujet de société. Tenais à partager ceci aujourd'hui. Parce que je pense que, pour répondre à ta question, une belle figurine de Gargamel à bonne hauteur, ça pourrait vendre par million. Voilà.
Ah, ça ferait un peu grand. Hein. Ça dépend quelle figurine fait ton Schtroumpf à la base.
Les Schtroumpfs, elles ont...
T'imagines tous les gens qui ont des collections de Schtroumpfs, etc., puis dans leur grenier, etc., puis tous les Schtroumpfs à la même taille, puis un pauvre Gargamel tout seul à la même taille perdu dans le mythe.
Moi, je suis sûr que la nuit, il se fait tabasser.
Exactement. c'est un bully.
Allez, une autre petite news.
Qui ne va pas nous rajeunir non plus.
Qu'on parle d'anime. Et il y a une expo qui va se produire prochainement ou qui est peut-être déjà en cours.
Non, elle démarre le 28 mai.
Mai, donc c'est bientôt.
Alors, elle ne dure qu'un mois, malheureusement.
Donc ça se passe dans le Val-de-Marne à Charenton-le-Pont.
Bon, région parisienne, facilement accessible.
C'est une exposition qui vous permettra de retracer un peu l'histoire du dessin animé japonais.
Alors pour savoir un petit peu de quoi il se cache, en fait c'est une exposition de cellulos. Des cellulos, donc les dessins originaux qui sont utilisés pour la fabrication du dessin animé. Et la personne qui est à l'origine de l'exposition va nous proposer un échantillon assez fourni et vraiment de très belles pièces de cellulos de toutes les grandes séries d'animation qu'on a pu voir en France.
Alors, c'est quoi la série animée qui vous a le plus marqué, la série animée japonaise?
On est vraiment dans les années 80, là, donc c'est vraiment Goldorak Candy, quoi. C'est
alors,
les deux
noms
qui reviennent immédiatement.
Goldorak, je sais pas si vous savez, mais ils ont fait une nouvelle série de Goldorak.
C'est pas terrible?
C'est pas terrible. Déjà, j'ai vu un extrait. A priori, Actarus est devenu étudiant. Donc après, déjà Goldorak...
Il a été remplacé par un chien qui chante.
Et Goldorak, il a complètement changé de look. Donc les cornes
de
figure...
C'est un noir. Maintenant, il est noir comme dans Star Wars, les héros. Ouais.
Alors, que les cornes de figure, en fait,
ils sont carrés.
Séparent.
Quoi ?
Ah oui.
Mais non, c'est pas possible.
C'est
scandale.
Vrai.
Pour répondre à ta question, Captain Flame est une série qui m'a particulièrement marqué.
Ouais.
Alors, pas pour la qualité de l'animation.
Pour les musiques.
Alors, musiques, déjà. Yuji Ono, qui est un grand compositeur japonais avec des musiques très jazz, vraiment superbes. Et pour les histoires qui sont, font partie des... Alors, c'est une adaptation de romans qui ont été écrits à la fin des années 30.
On parlait de Star Wars tout à l'heure, on reste dans le même esprit, quoi.
En fait, les nouvelles de Captain Future, qui est le nom original, donc un personnage écrit aux États-Unis, est un des premiers personnages de Space Opera, qui lui-même s'est inspiré d'un autre personnage qui s'appelle Doc Savage, qui étaient des pulps. C'était les romans qu'on lisait quand on était jeunes aux États-Unis.
C'est les comics, mais par les gens qui
se passaient dans un univers. Doc Savage, c'est un personnage qui a son équipe et qui vit d'aventuriers, voilà, qui avance dans des différentes aventures.
Genre Tourix, mais.
et Edmond Hamilton, l'auteur de Captain Future, avait adapté ça dans l'espace. Et c'est un des éléments qui a servi notamment à George Lucas. Mais si vous regardez Big Bang Theory, dans l'appartement des personnages, vous avez un poster à gauche de l'entrée. C'est un poster de Captain Future, donc Capitaine Flamme. La version américaine, enfin de les pulp originaux. Donc vous voyez un peu. Et alors ce qui est très amusant à noter par rapport aux personnages de science-fiction japonais, c'est que j'ai découvert récemment que les Coréens, en 80, ont racheté aux Japonais des cellulos, enfin, ils ont fait un mélange de Capitaine Flamme et d'Albator, et ils ont créé un film d'animation où on a un personnage qui est un mélange des deux, mais c'est-à-dire en prenant des cellulos des deux séries d'origine. Donc c'est vraiment quelque chose de bâtard qu'on n'a jamais vu, dont on a très peu entendu parler.
Il traite en direct, cache quoi.
On dit pas bâtard ici,
on n'a pas envie de voir.
Tu prends des risques.
C'est honteux.
Voilà, c'était une petite anecdote.
Allez, je vous propose...
Attends, est-ce qu'on a fini sur la news déjà? Ouais.
What? On pourrait parler Capitaine Flamme sur un air de Capitaine Flamme.
D'abord.
C'est
la version disco.
C'est
avec
pas Capitaine Flamme, ça. Hein.
C'est joué par un chien qui chante.
C'est Captain Future.
Ah oui, alors non.
Attention.
Attention.
Oh là là là.
Qu'as-tu fait, malheureux? Ce n'est pas les vraies musiques.
Oh non, non.
Alors, il faut expliquer que les Allemands... En fait, nous, en France, Goldorak a connu le plus grand succès. C'est-à-dire que tout le monde, si on parle des animés japonais, pense Goldorak. Ou en Allemagne, c'est Captain Flamme. Parce qu'ils n'ont pas connu Goldorak et que c'est cette série-là qui a été mise en avant à l'époque. Donc c'est la série numéro 1 là-bas, mais la particularité c'est que les Allemands ont acheté la série, ils ont redécoupé, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 52 épisodes, on en a 39, parce que chaque histoire de Captain Flamme a particularité de tenir sur 4 épisodes, et ils ont changé toutes les musiques. Donc les musiques allemandes sont sympathiques, mais si on les compare aux japonaises, elles n'ont rien à voir, elles sont quand même bien moindres au niveau de la qualité.
D'accord, donc je t'ai passé du truc allemand.
Voilà. Ah voilà, là par contre, je reconnais bien.
C'est mieux ?
C'est beaucoup mieux,
tout de suite. Voilà, on se sent transporté dans ce qu'on veut là.
Alors, précision que l'auteur de ces musiques, Yuji Ono, a également composé des musiques de la série Lupin 3, Edgar, Détective Cambrioleur. Donc si Lupin 3 est un des personnages...
Enfin, Lupin, oui.
Ah voilà, Lupin the Third...
Edgar de la Cambriole, en français, mais bon.
Et oui, passé dans Amuse 3 sur la 3.
Putain, on a des points négatifs culture là-bas.
Ah voilà, c'est.
Qu'est-ce qu'on risque de trouver d'autre dans cette. À part les cellulos.
Alors, je fais un lien avec un artbook que j'ai récemment découvert, la Nippon Animation. Et en fait, on a quelques grands studios au Japon. Toei Doga, Toei Animation, d'où vient Goldorak, Albator, Candy. Donc, évidemment, ces séries y seront présentées. Mais on a d'autres studios comme TMS, qui a produit L'île au trésor, par exemple, Rémi sans famille, Cobra, Lady Oscar.
Alors encore des chiens qui pleurent et qui chantent. Non,
et, le... et enfin Nippon Animation, qui est à qui l'on doit Tom Sawyer, par exemple, Vic le Viking, etc. Et d'ailleurs, il y a un très très bel artbook. Donc un artbook, c'est un livre avec des belles illustrations, comme ça qu'on appelle ça au Japon, qui reprend les plus belles illustrations du créateur de ces illustrations, enfin ce qu'on appelle les character designers, c'est-à-dire le style graphique des personnages, qui s'appelle Tsuji Seki. Donc c'est un artbook qui est sorti l'année dernière et il n'est pas encore ce livre n'est pas encore très connu, mais il mériterait d'être découvert.
L'avantage c'est qu'on peut regarder les images, on les trouve belles. Faut éviter de re-regarder les séries.
Il y en a certaines qui ont mal vieilli.
Quand elles bougent pas, ça va.
Et après t'as la qualité de merde VHS.
Tu lis les livres et les illustrations en écoutant les musiques. Mais tu ne regardes pas les séries.
En même temps, tu as des séries, bon, même si la qualité est discutable de l'animation, qui, parce que les Japonais faisaient les choses différemment par rapport aux Américains, on a quand même un intérêt à regarder aujourd'hui une série comme Cobra ou même Captain Flame, parce que les histoires sont intéressantes à suivre.
Absolument.
Ou Ken le survivant.
Faut pas lui donner le micro, lui, là-bas.
Ah, moi, ce que j'aime bien, c'est la musique. Celle... Tu sais, quand il repart dans le passé.
Alors ça, c'est...
Ça, c'est le vrai générique.
Voilà, et après...
C'est l'intro, avec la présentation et le commentaire.
Alors la française est bien connue, hein. On chante ça dans tous les mariages.
Non.
Pitié. Ah, je pensais lancer le public.
Non.
Et il a pas... voilà, t'as juste à en parler, il lance tout seul, quoi.
Mais c'est vrai que t'avais récupéré un OST d'Homme et il y avait certaines musiques dessus qui étaient assez reposantes mais super sympa. Un peu musique d'ascenseur.
Alors c'est amusant de noter aussi que Yuji Ono, toujours le compositeur, a refait les musiques au Japon de la série Chips. Alors la série Chips, c'est une musique très disco qui est très sympathique, mais au Japon ils ont eu le droit à une nouvelle musique, pourquoi je ne sais pas, mais c'est Yuji Ono qui les a composées.
Il a besoin de payer ses impôts, le garçon.
Voilà, je crois que
bah, nous, on a bien eu le Bernard Minet qui a massacré tous les gens. J'avoue, tous les génériques
oui,
possibles.
Oui, bah, tu sais-tu que justement Bernard Minet a fait un générique de Capitaine Flamme. C'est-à-dire qu'en 88, lorsque la série a été rediffusée sur TF1, donc Club Dorothée, c'était un générique par Bernard Minet. Donc là, évidemment.
Je crois qu'on vient de trouver notre deuxième album découverte de la soirée là.
Je vous laisse apprécier.
Quoi ?
Donc quand c'est sorti au Club Dorothée, les premiers génériques c'était ça.
C'était terrible.
Ouais, ceux de Captain Flame, ouais.
Bon. Captain
Flame. J'ai entendu.
Hélas, bon, moi ça va.
Allez, on va faire une petite pause et on va vous laisser avec cette belle musique, cette grande voix qu'est Bernard Minet.
Qui a écrit sa biographie, rappelons-le.
Ah là là, il faudra l'interviewer.
On l'a pas écrit pour lui, t'es sûr ?
Alors, il y avait une news justement qui est liée à tout ça. C'est la sortie d'un livre qui n'était pas attendu, quoique. C'est-à-dire René Bruno Huchez, la personne qui a fait venir en France la plupart des séries japonaises qu'on l'on connaît, que ce soit Goldorak, Albator, Candy, etc., a écrit ses mémoires. C'est un livre qui a été auto-édité par la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bang Bang. Donc,
ça me plaît.
Kiss Kiss Bang Bang.
Ouais, Bang Bang, pardon.
C'était sûr qu'on peut poser des films un peu bizarres avec ça.
Oui, oui.
Bref, c'est un livre qui est sorti tout récemment, là, qui est disponible sur Amazon, hein, qui s'appelle Il était une fois Goldorak, qui fait plus de 400 pages, dans lequel on apparemment on trouve pas d'illustration, mais qui est la version de René Bruno Huchez sur comment il a amené toutes ces séries en France. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'animation japonaise, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais à prendre avec du recul. Connaissant
il serait pas un petit peu mythomane ce personnage?
Juste un peu.
Voilà.
Bon allez, je vous propose de faire une petite pause et après on attaque le quiz musical. Oh. Allez, à toute. We'll be right back. on enchaîne avec le quiz musical proposé par Christophe, avec un thème qui est très large, puisqu'il n'y en a pas du tout.
Exactement.
Exactement. Ouais.
Un thème Christophe. Oh. I'm gonna
chase you out of earth. Alors, là, ce qu'il faut deviner, c'est un morceau qui a été repris par un autre groupe et qui a connu une nouvelle jeunesse, on va dire.
Sympa.
Donc, celui qui arrive à trouver quel est le groupe qui a repris ce morceau.
Tu chantes là ? Non, alors, ça c'est l'original.
Ça c'est l'original.
Wow. Mais oui, en plus, je le connais.
C'est récent la nouvelle reprise ?
Non, ça a 15-20 ans.
C'est pas UB40 ?
Non, c'est un groupe qui pulse. C'est une musique qui pulse.
Comment il s'appelle ?
Pas Jamiroquai.
Non, non.
Non.
Oh là là, je trouve plus le nom.
Je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est un groupe britannique. Mais je ne m'avancerai pas sur ce thème.
Les Beach Boys ou...
Tu as le morceau, t'as la reprise au moins.
Non, j'ai pas la reprise malheureusement. Mais je pense qu'on va pouvoir
on va la trouver.
La trouver.
Comment s'appelle ce groupe ?
Alors, vous voulez la réponse ?
Ouais.
Je vais vous la donner. En même temps, je ne connais pas le titre du morceau, mais le groupe c'est
Prodigy. Je cherchais en plus.
C'est Prodigy. Ah bah ah si, c'est bon, je l'ai trouvé, c'est Out of Pace, apparemment.
J'ai connu le morceau, mais impossible de le retrouver.
Alors, je vais juste faire une petite transition.
Ah, tu peux laisser les deux en même temps.
Ouais, ça peut être sympa. Alors, c'est, on doit être au milieu des années 90, hein, pour situer la date. C'était la grande époque des débuts de la techno.
Et de la...
Avec des clips magnifiques.
Ça ressemble à du Dink World, le groupe qui tourne dans Chappie, le film. En fait, ils ont pris l'original remixé.
Oui, alors, mais c'est du sample. D'ailleurs, ils sont coutumiers du fait, puisque de nombreux morceaux utilisent des samples de nombreux autres titres. Alors là,
c'est le début de Prodigy.
On va, sans transition, comme on dit, hein, je vais vous faire découvrir un autre morceau.
Oh là là.
Ah oui, je connais ça.
Ah, il y a les paroles. When courage is needed, you're never around. Those medals you wear on your moth-eaten chest should be there for bungling at which you are best. So stop the pigeon, stop the pigeon, stop the pigeon. C'est un dessin animé.
Ah mais
ils arrêtent des pigeons.
Oui, ils courent après des pigeons.
C'est Satanas Diablo.
Voilà.
Alors le nom de la série. En français, c'était Satanas Diablo.
Il y avait les fous du volant.
Les fous du volant.
Ouais.
Non, alors en fait,
ouais, il y avait pas
les fous volants et les fous du volant.
Ouais. C'est un peu subtil parce que les fous du volant, c'est des courses
c'est
sur
course,
terre.
Voilà.
Et il y a une deuxième série dans laquelle ils font une chasse aux pigeons par le biais d'avion. Alors un autre cartoon bien connu. C'est le générique de fin.
Les images.
Pareil.
Alors le public. Oh mon dieu.
Alors c'est vrai que pour autant les génériques sont parfois tronqués donc on n'a pas forcément l'occasion de. Eh bien c'était Scooby-Doo.
Oh là déjà des
alors,
Scooby-Doo.
Alors je vais demander au public de ne pas souffler.
Da da da.
Et oui alors. C'est une série japonaise.
France 5. le générique de France 5, c'est exactement le même.
Mais c'est parce que je pense que c'est un hommage.
Un hommage.
Non, c'est le même gars qui a fait la musique.
Non, je ne pense pas. Ou alors ils l'ont payé cher.
Non, il a décidé volontairement de le faire parce qu'il refaisait du Sentai et ils étaient contents.
Alors, est-ce que tu connais du coup l'original ?
Donc voilà. C'est un Sentai, forcément.
Tout à fait, et pas n'importe lequel.
Bah, Gaban.
Ah non.
Merde.
Gaban n'est pas Sentai, c'est un Tokusatsu.
Attention. Hein.
Un Sentai, c'est une équipe de combat. Donc ils
étaient
plusieurs.
Tout seuls là.
Voilà.
Et oui.
Vas-y, je passe.
Alors,
ils le disent dans le français. On ne le dit pas. Ils sont plusieurs là.
Voilà, attention.
On se parle. Bioman.
Eh oui, c'est Bioman, c'est le générique original.
Donc il a refait le même pour France 5.
C'est fort.
Ah ben écoute, ça je le découvre. Alors là, c'est sans transition.
Absolument.
C'est un groupe anglais qui, à la fin des années 80, a créé ce morceau. Et pourquoi ce morceau? En fait, c'est le nom du groupe qui est particulier, puisque c'est le nom d'un personnage d'anime, enfin de dessin animé, mais pas japonais pour le coup.
Oh, américain, non?
Américain, oui, qui est un personnage très connu, puisqu'il a commencé sa carrière très
Hong
tôt.
Hong Kong Fufu, non.
Ah non, non. Non, ça va plus loin encore.
Oh là là.
C'est pas un personnage télé, d'ailleurs.
Il a des lunettes.
Non. Non.
Ah, c'est pas un personnage télé.
Non, c'est un personnage de dessin animé, mais qui a été plutôt eu sa carrière au cinéma. Et qui a connu... à l'époque, c'était innovant. Enfin, c'était à la limite
cinéma.
Provoquant. Début du cinéma jusqu'à plutôt les années 60.
Ah, c'était pas... Non.
C'est un personnage de sexe féminin avec un animal de compagnie. Autrement dit, un chien.
Oh là là.
Ah, oui, elle le dit dans la chanson.
Ah, comment ça s'appelle? Le chien, il s'appelait Papi Pounet.
Ah, pas loin, je ne connais pas d'ailleurs le
Mélodie et Pipounet. Ah non,
Bou quelque chose.
Il y a Bou quelque chose, mais c'est ce qu'il y a avant le Bou.
Betty Boop.
Eh oui, c'est Betty Boop.
Elle avait un chien, un animal de compagnie, Betty Boop.
Non, mais c'est d'ailleurs c'est Betty Boop, le nom du groupe.
Ah,
c'est pas Betty Boop, mais c'est un hommage.
Betty Boop, elle avait un animal de compagnie.
Oui, elle a un petit chien.
Ah ouais, oh là là. Mais il chante pas. C'est pour ça qu'on l'a pas retenu.
Peut-être qu'il y a un épisode dans lequel il chante, je ne sais pas.
S'il chante pas, c'est nul.
Alors, sans transition. Le public ne souffle pas.
Mais vous êtes fous.
Vous êtes fous.
Alors, oui et non.
Ah, Do You Speak Martien.
Alors, qui c'est?
Mais je le sais en plus.
Alors, il y a deux choses à savoir. Bon, il y a le nom de qui est derrière les platines. Mais il y a aussi surtout les voix qu'on entend. D'où viennent-elles?
Ah bah c'est tiré des visiteurs, non?
Oui, visiteurs.
Eh ben pas du tout, non, pas non. Du tout. C'est bien plus culte que ça. Enfin quoi que.
C'est le même genre, c'est la même équipe.
Pas du tout. Fait, c'est un sample qui a été pris par un DJ, donc qu'on entend. Enfin le DJ, alors, je peux dire, c'est Didi K, qui est le DJ de Benny B,
ouais.
qui a été champion du monde de DJing.
C'est
quelqu'un qui n'a pas eu sa carrière que par le biais de Benny B. Et il a samplé un 33 tours qui était sorti au début des années 80. Et ce disque, il s'agit du 33 tours de Goldorak.
Oh.
Et donc là, vous entendez les voix du dessin animé Goldorak. C'est la voix de Miguel.
Oh mon dieu.
C'est honteux.
Faut pas les revoir. Les...
Waouh.
Ouais. Bon, ça, c'est pas vraiment pour
on
les...
trouve rien, mais bon.
Pour les puristes.
Oui, mais tu connais, tu oublies ce genre de truc.
Alors ça, le public ne souffle pas toujours.
Ah, le public, t'es nul. Hein.
Et genre, il est super fort.
Non, mais je connais.
Voilà.
Je connais.
Je ne donnerai pas d'indice pour le moment.
Générique de dessin animé japonais.
Générique, oui.
Conan.
Non. Ah, c'est le même chanteur que tout à l'heure.
Ah, alors.
Il a fait Bioman aussi.
C'est une série animée.
Non, c'est pas une série animée.
C'est Gaban.
Et oui, cette fois c'est le.
Yeah.
Faut se le répéter, ça marche.
Et d'ailleurs, il faut préciser que Gaban tient son nom de Jean Gabin, parce que.
Non.
Exactement. L'auteur était un fan de Jean Gabin. Le cinéma français très connu au Japon. Et voilà d'où l'origine du nom de Gaban. Donc en France, on a préféré l'appeler X.
C'est sûr que Jean Gabin en fait, ça aurait pas fait.
Mais n'empêche, il y a eu trois films là.
On t'a demandé ton avis.
Non, mais il y a eu trois films récents, entre les trois, Space Sheriff. Donc voilà.
Oui, précision, les Space Sheriff, c'est XOR, c'est le Space Sheriff Gavan, c'est le premier, mais ouais. il y en a eu trois.
Le fils de donc, le, en il y a France... eu Z-OR et Y-OR. Ils n'ont pas non, fait Q-OR, mais non.
Y-Argent et ah, Z-Bronze. Oui,
voilà. Non, mais on a eu Shader et Sharivan, hein. Voilà. C'est ça. Ouais, et c'est ça. Donc, effectivement, il y a eu un film qui...
Non,
qui...
il y en a eu trois, en fait.
Il y a eu trois films qui les met en confrontation. On passe au titre suivant, sans transition.
Sans transition, j'ai peur.
Alors là, vous pouvez écouter le morceau en entier, vous ne trouverez pas.
Ok, suivant.
Mais on va l'écouter quand même Shaft. Un peu parce qu'il est, il est sympa. Pourquoi ce titre c'est le nom de la chanson.
Un bon film de
enfin, le nom de la musique plutôt, qui est le nom d'un jeu vidéo. Mais il n'y a absolument aucun lien.
Je sais.
Entre.
Je connais, je connais, j'ai reconnu.
Les jeux vidéo et cette musique.
Cowboy Bebop.
Non, non, mais il ne faut pas chercher, il n'y a pas de lien. Donc. C'est juste que le nom était identique à...
Un jeu vidéo sur PlayStation, de course de vaisseau.
Voilà, Dominique va vous donner des indices.
T'as vu l'écran ?
Non, non. Non,
non je vais donner des indices. Enfin, je vais montrer le nom tout à l'heure.
Il a été adapté. Il y a eu au moins un 3, je pense qu'il y aura un 4 sur la nouvelle PlayStation.
Faut bien comprendre que si je vous passe ce morceau, c'est uniquement pour le plaisir de vous passer ce morceau et ça n'a aucun quoi.
Ça fait musique Captain Flame, non ?
C'est une musique des années 70, c'est The Incredible Bongo Band qui a un album très sympathique. Et donc le jeu, peut-être tu peux.
Un jeu Wipeout.
Bravo !
Voilà. Le morceau de ce titre s'appelle Wipeout.
Wipeout.
Voilà.
Alors, je tiens à rappeler que Reynald est bien présent dans l'émission.
Absolument.
On ne l'entend pas. Par contre, je ne sais pas comment brancher ton micro.
Ah, bah voilà.
Enfin, vous l'avez censuré alors qu'il avait toutes les réponses.
D'abord.
Surtout que je suis... Est-ce que tu as répété les Gaban, sinon j'avais déjà un point.
Si tu joues à Wipeout avec cette musique-là, ça peut être sympa.
Ah. Alors, attention. Ah, là, c'est un remix. C'est un mashup.
Ok, j'ai une moitié déjà. Et j'ai l'autre moitié. J'ai les deux.
J'ai pas la deuxième, moi j'ai pas le riff de guitare. J'ai les deux. Ah, ok, ouais, en fait c'est le plus facile.
Oh. Alors, c'est deux grands classiques des années 80.
J'en ai, hein. J'ai les deux d'ailleurs. Qui a les deux ? Qui n'en a pas ? Le public n'en a pas. Aucun.
Un sûr, mais là
j'ai le premier, j'ai le deuxième.
Je bah, pense avoir les deux.
À la limite, commence puisque tu ne connais plus.
Bob Marley. Le deuxième, j'ai un doute.
C'est 4 initiales ? Non.
Pas du tout.
Non.
Il y a deux mots.
YMC.
Non.
J'hésite entre Depeche Mode, In Excess.
Ah, en fait, je réfléchis, je pense que c'est un groupe qui a fait qu'un titre.
Bon,
en tout cas, ils sont connus pour ce titre. Mais...
Ouais, oui, après, ils ont. En solo, ils ont fait.
Ah, c'était repris par Marilyn Manson.
C'est Soft Cell.
C'est Soft Cell,
tout
ouais.
à fait.
Allez, un avant-dernier titre. Alors là, c'est une
reprise.
Les Feux de l'amour.
C'est une reprise.
On est deux à dire Les Feux de l'amour. Qui dit mieux ?
Déjà la chanteuse.
If you go away on this summer day,
Madonna.
C'est Madonna.
Joli, joli, bien vu. Then you might as well.
Elle reprend une chanson.
Oui, mais attention, si tu connais la réponse, laisse un peu de temps pour les autres.
C'est très lent. La version originale est plus rapide.
Oh, pas de beaucoup. In the
summer
sky. Ah, ça tranche avec ce qu'on a entendu avant. When our love
was new. Oh mon dieu.
Ce n'est pas My Way.
Il y a Love dans le titre ? Non.
Non.
Ah mais oui, c'est une chanson de Brel.
Eh oui.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas.
Tout à fait.
Ah, c'est ça. La
de Des Argonnes. Oh là là, ouais.
Son écoute, 30 secondes.
Joli.
On va finir en pleurant.
Non, en se tirant des balles.
Mais en même temps, pour le dernier morceau, j'ai un truc qui va vous revigorer.
Bah oui, puisque c'est le dernier.
Non, non, j'ai une règle de fin déjà.
Attention.
J'ai une règle de fin. Bon, ben.
Mashup.
C'est Benny Hill.
Alors, c'est effectivement le morceau qu'on entend dans Benny Hill, mais alors, c'est Yakety Sax.
Bah c'est Eminem.
Mais oui,
c'est lui.
t'entends, c'est énorme.
Je vois que c'est important. Bah, moi, je voulais quand même finir là-dessus.
C'est un magnifique générique de fin. Ah ouais,
Il va pouvoir devenir le anthem de l'émission pour la prochaine. Ouais.
C'est dommage qu'il n'y a pas de chien qui chante dessus. Et voilà, c'était la fin de ce 55e épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Ciao.
C'était vraiment... Just get a task it, I will tip the